Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h24, bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous venez de publier votre dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. Peut-on d'ores et déjà parler de catastrophe humanitaire en ce qui concerne la Ghouta orientale à l'est de Damas?
La réponse est oui, mais on peut en parler depuis 6 ans. Parce qu'en réalité, c'est l'un des bastions principaux, sinon le bastion principal de l'opposition à Bachar el-Assad, depuis pratiquement les débuts du printemps arabe syrien, c'est-à-dire fin 2011, début 2012.
Emmanuel Macron, Angela Merkel et Vladimir Poutine se sont entretenus hier au téléphone pour faire appliquer la résolution de l'ONU votée à l'unanimité. Est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce qu'on peut s'attendre à un cessez-le-feu dans les prochaines heures?
Alors ça sert à quelque chose, oui, parce qu'avec Vladimir Poutine, il faut s'adresser au plus haut niveau. D'une part, d'autre part, il faut lui proposer quelque chose en contrepartie. Si on lui demande de faire un effort, sachant que cet homme ne jure que par les rapports de force stricts, bruts sur le terrain, il faudra bien lui proposer quelque chose et manier en quelque sorte la carotte et le bâton. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ou alors j'ai une vague idée, l'Ukraine, hein, puisque la Russie est toujours sous la pression d'un certain nombre d'États occidentaux concernant la situation en Ukraine, après l'annexion de la Crimée, etc. Et de ce point de vue-là, il peut obtenir peut-être la diminution ou la limitation de la punition technique, technologique qu'on lui a infligée il y a quelques années.
Vous voulez dire qu'il faut faire pression, passer par l'Ukraine pour obtenir d'éventuels résultats
parce qu'il faut bien comprendre que pour Vladimir Poutine, la Syrie, et en l'occurrence le pouvoir de Bachar el-Assad, c'est une pièce maîtresse de son dispositif géopolitique. Il faut bien comprendre que sur les deux grands bassins géopolitiques que sont la Méditerranée et le Moyen-Orient, la Syrie est le seul allié, l'unique allié de la Russie, et la Syrie était déjà alliée de l'URSS en 1953. Donc vous voyez que Poutine ne lâchera rien, et d'ailleurs n'a jamais rien lâché depuis 2011-2012 en Syrie, c'est la raison pour laquelle il faut bien passer par autre chose.
Donc il ne peut pas y avoir de faille dans les relations entre les Syriens et les Russes pour des raisons de pure géopolitique, d'accès à la mer et d'alliance ponctuelle et durable, si j'ai bien compris.
C'est juste, il n'y a jamais eu de véritable faille. Poutine, avant 2013, il faut le rappeler, n'avait pas envoyé de chasseurs-bombardiers sur place, mais ça, c'était avant la reculade catastrophique de M. Obama, lors déjà de la première crise de l'utilisation des gaz neurotoxiques contre la population syrienne, déjà à la Ghouta orientale.
À l'époque, François Hollande disait vouloir intervenir.
Eh bien oui, et la France a été le seul pays à être debout à l'époque. Le tandem Hollande-Le Drian, à l'époque, avait dit « Eh bien nous, on y va, puisque là, il y a violation de toutes les résolutions internationales sur l'emploi de gaz neurotoxiques et d'armes prohibées de manière générale. » Monsieur Cameron, on s'en souvient, en Grande-Bretagne, n'avait pas pu intervenir parce que les communes avaient voté contre, le Parlement s'était opposé, et Obama s'était assis sur sa propre ligne rouge. Ne restait que la France, et politiquement, on ne pouvait pas intervenir seul. Ça a été une catastrophe.
Emmanuel Macron a dit à peu près la même chose. Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation?
Ah, on y est pratiquement déjà, parce que des armes conventionnelles ou pas, de toute façon, lorsque ça tue massivement, eh bien, on est hors résolutions internationales, et par conséquent, il faut bien évidemment agir. Mais encore une fois, on ne peut pas agir seul, en tout cas la France ne peut pas agir seule. Ça c'est une certitude, et face à Vladimir Poutine et à sa détermination, hein, dont on a vu les raisons il y a un instant, encore une fois, il faut bien proposer quelque chose d'intéressant. Alors ça peut être l'Ukraine, ça peut être autre chose.
Alors la résolution prise à l'unanimité à l'ONU permet d'intervenir contre les groupes terroristes liés par les Nations Unies. La question est de savoir qui sont ces terroristes. Pour Bachar et ses partenaires, les rebelles au régime sont des terroristes, ce qui n'est pas forcément évidemment le cas des autres. Comment on s'y retrouve?
Oui, c'est une question.
Parce que tout le monde joue sur ce flou en permanence, en tout cas pour faire ou pour ne pas faire.
Oui, c'est une question essentielle. Alors d'abord, Assad, lui, parle de terrorisme de façon générale et constante, parce qu'il sait très bien quel est le poids moral, affectif, politique de ce terme en Occident. D'une part. D'autre part, chacun a ses terroristes, hein, mais ça, c'est pas nouveau. Et ça ne concerne pas que la Syrie ou la Russie.
Et les terroristes de l'un ne sont pas les terroristes de l'autre.
C'est exact. Maintenant, dans la Ghouta, pour être honnête, vous avez un certain nombre de combattants qui sont des djihadistes. Et c'est l'un des bastions, je l'évoquais tout à l'heure, ainsi que Idlib, au nord de la Syrie. Il y a aussi un bastion très près du Golan israélien et près de la frontière jordanienne. Je renvoie vos auditeurs, comme toujours d'ailleurs, à des cartes. Vous avez encore quelques bastions de l'opposition, mais en l'occurrence, on a là affaire à une majorité de djihadistes. Alors oui, bien sûr, d'ailleurs je crois que c'est la position officielle de la France, hein, ces gens-là, les gens de Daesh, mais également d'Al-Qaïda, car il y a les deux, sont, oui, bien sûr, des terroristes. Et d'ailleurs, il faut ajouter un point très fondamental, ces gens-là font de la population de la Ghouta un gigantesque bouclier humain. Donc on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Je ne parle bien sûr pas des civils, qui, eux, trinquent de la répression épouvantable d'Assad. On vient d'en parler, on en parle depuis quelques jours. Enfin, allais-je dire. Mais tout de même, les combattants qui se trouvent retranchés dans la Ghouta utilisent cyniquement cette population.
Donc, Al-Qaïda et Daesh, à travers les djihadistes et leurs combattants, ont pris cette population en otage.
C'est exact, et c'est pour ça que j'emploie souvent le dicton, enfin l'expression de la peste et le choléra. Hein. Entre Assad, d'une part, et les djihadistes, d'autre part, depuis 2012, on a réellement deux systèmes tout à fait totalitaires et d'un cynisme consommé, à savoir la peste et le choléra.
Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, sera en Russie demain. Que peut-il obtenir ?
Il pourrait obtenir au moins le respect, effectivement, de la trêve qui a tout de même été votée aussi par la Russie au Conseil de sécurité. Hein. Mais il faudra qu'il le demande, non pas poliment, mais avec suffisamment de détermination. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Il avait démontré à l'époque à la Défense pour que Poutine y trouve son compte. Hein. Lorsqu'on ne joue que sur les stricts rapports de force, vous savez, l'humanitaire, ça passe forcément derrière. Hein. C'est la morale, si vous voulez, pour Poutine et pour d'autres chefs d'État dans le monde, n'est qu'une variable très minoritaire dans les prises de décision.
Une dernière question avec réponse rapide, même si ça n'est pas facile. Quels sont les autres pays de la région en ce moment qui sont effectivement et réellement directement concernés ou inquiétés ?
L'Iran. De toute façon, l'Iran soutient Bachar al-Assad depuis les débuts. Sans l'Iran, c'est-à-dire sans une partie de l'armée iranienne, sans le Hezbollah chiite libanais qui obéit à l'Iran, qui a été créé par l'Iran en 82, Assad ne serait plus au pouvoir. Et puis vous avez au nord de la Syrie, la Turquie, qui elle tente d'empêcher le continuum kurde à sa frontière. Et puis vous avez au sud-ouest Israël, qui craint justement la pénétration de l'Iran et l'établissement de base à quelques kilomètres seulement de sa frontière. Et enfin, l'axe sunnite, mais qui perd du terrain, avec à sa tête l'Arabie saoudite et qui, il faut bien le reconnaître, a soutenu pendant plusieurs années des groupes djihadistes extrêmement cruels.
Les Russes ne connaissent que le rapport de force, il faut passer par l'Ukraine, peut-être, nous avez-vous dit. Merci beaucoup Frédéric Ansel, je rappelle votre dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. Bonne journée à vous.